se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est en direct, c'est tous les jours, de 9h à midi. Aujourd'hui, nous sommes avec Willy Schran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, l'avocat de Sarah Salman, l'éducateur Étienne Liebig. Tout à l'heure, face au GG, à midi moins 25, Christophe Prudhomme, il est président de l'Association des médecins urgentistes de France. Il est l'un de ceux qui, depuis de longues années déjà, a tiré le signal d'alarme sur la dégradation du service des urgences. Et il le dit encore aujourd'hui à un point tel que... Il dit passer aux urgences, c'est peut-être même aujourd'hui mettre la santé des Français en danger. Parce qu'on manque trop de moyens, les médecins sont quasiment en burn-out, on manque de soignants. Donc aujourd'hui, attention, danger, implosion au service des urgences. À 11h, est-ce qu'on doit réinstaurer le cumul des mandats? C'est une proposition de Carl Olive. Il est l'ancien maire de Poissy, il est député. Et il dit aujourd'hui, nos élus ont besoin d'avoir l'acquis du terrain. Ils ont besoin de redevenir députés maires. C'est bon d'être à la fois national, faire les lois, et quand on est maire, on sait très exactement quelles sont les difficultés du quotidien. Alors, rétablir le cumul des mandats, oui ou non? On a une équipe, oui, Willy et Sarah, et on a un non, monsieur Étienne Liebig, seul contre tous, aujourd'hui.
Monsieur Liebig.
Ce sera tout à l'heure à 11h, vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. En attendant, parlons de ce qui se passe à Louvroil dans le Nord, avec un petit château, un hôtel particulier du 19e, qu'il faut raser pour installer un supermarché Aldi.
RMC, les grandes gueules.
C'est quand même un bâtiment qu'on ne pourra plus jamais faire. Donc, je pense qu'il mérite une attention particulière. C'est aussi l'emblème de Louvroil avec une très belle perspective venant de Maubeuge. Je comprends que beaucoup de gens ne soient pas sensibilisés à ce problème-là. Mais on ne peut pas comme ça détruire d'un trait l'histoire d'une ville qui est quand même, encore une fois, un emblème, donc l'identité de la ville. On ne peut pas se permettre de le détruire comme ça.
C'est un sujet qui a fait beaucoup discuter. C'est un sujet de nos amis de BFM Grand Lille qui se sont intéressés à cette polémique à Louvroil dans le Nord, mais qu'on peut identifier à bon nombre d'endroits aujourd'hui en France. En fait, c'est un petit château, un hôtel particulier du 19e, le château de Lixon. Il vit peut-être ses derniers jours puisque le terrain va devenir l'emplacement d'un magasin de l'enseigne allemande de supermarché Aldi. Alors c'est vrai que la bâtisse aujourd'hui est en piteux état, elle n'a jamais été classée, elle appartient à un privé, elle ne trouve pas de repreneur. Mais il y a une pétition localement en disant « gardons-le, arrêtons d'avoir aux alentours des zones commerciales, des bâtiments où on a uniquement des supermarchés ou des enseignes, on ferait mieux de réfléchir à un projet pour l'avenir du château ». Alors est-ce qu'il faut préserver ce château plutôt que d'y installer une enseigne de supermarché? 32-16 pour en parler dans les GSA.
Moi j'ai appris deux choses, c'est qu'est-ce qui est Louvroil et qu'est-ce qui est Aldi. Ah, ça, je savais pas.
Encore une fois, se faire des amis.
Je ne savais pas que c'était une chaîne de supermarché. Alors moi, à la place, je mettrais plutôt un centre de beauté, un spa, un salon de coiffure. Ça me semblerait déjà plus pertinent que cette chaîne-là.
Ouais, une fédération de chasse.
Connaissez... Je vais te faire des potes, toi aussi. Donc,
tu préfères garder le château ou on vend le terrain, on rase et on met un supermarché?
Ça dépend ce qu'on met. Aldi, là, ça me dit pas, non. Mmh. Ça dépend ce qu'on met. Mais après, il y a à peu près, je le rappelle, en France, environ 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques. Il n'est, à ma connaissance, ni inscrit, ni classé. Donc, à partir de là, il peut faire toutes les
pétitions.
C'est
pas classable, on voit bien la
photo. Donc après, soit la mairie a les moyens de le racheter, manifestement ce n'est pas le cas, soit, bon, je comprends que le supermarché Aldi, voilà, bon, c'est pareil, j'imagine.
Ouais, mais bon, c'est des régions de France qui sont difficiles socialement.
Après, là, il y a un attachement.
Il y a un attachement, attends, on a vu quelques personnes à la télé, il y a un maire qui est loin d'être un idiot, que je salue, qui sait qu'effectivement, c'est des municipalités qui n'ont plus de moyens, Sarah. C'est très, très dur pour ces gens. Bon, ces constructions du 19e, faut le dire comme c'est de la merde. Ils sont déjà en ruine partout dans nos campagnes. Total. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est pas des châteaux, c'est même pas des hôtels particuliers, c'est des maisons bourgeoises, des temps, des
finances. Enfin, vite fait, la bourgeoisie.
Qui ont quand même de l'allure. Enfin, c'est plutôt pas mal.
Ça a de l'allure parce que c'est une copie du 17e. Mais
ça a de l'allure, si on veut. Après, il y a un moment, il faut choisir pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? La mairie n'a pas les moyens de reprendre ça. Ils ont essayé, d'ailleurs, il y a quelques années, à un moment, d'en faire une médiathèque. Ça coûte une fortune, machin, il faut dépenser des millions d'euros.
Une médiathèque, qui va à la médiathèque au 21e siècle?
Dans des communes, il y a des gens qui vont quand même.
Donc c'est dingue de dire ça.
C'est compliqué.
Chez moi, c'est un problème, la médiathèque.
Donc, pour terminer là-dessus, donc effectivement, moi, je pense que le maire a raison. Il y a un moment, il vaut mieux. Je suis désolé, il faut aller au plus pressé. Il vaut peut-être mieux mettre un Aldi qui est une demande pour les gens du coin et qui en ont sûrement besoin, des discounters alimentaires. Ah, celui-là ou un autre, je m'en fous, c'est pas la question. Faut vivre avec son temps. Et puis, dites-vous bien aussi que si on n'avait pas rasé pas mal de choses, elles seraient quoi, nos grandes villes aujourd'hui? Quand Haussmann troue Paris d'un bout à l'autre, ça hurle. Et il y a autre chose que ça qui ont été rasées.
Il troue Paris d'un bout à l'autre parce que Paris était un cloaque,
il y a des choses extraordinaires.
Il fallait redessiner les rues.
Je vais te dire. Il y a des tas de villes en Europe, parce qu'on parle de l'ancien monde. Il y a des tas de villes en Europe, comme Florence, comme Rome, comme etc., qui étaient exactement dans le même état que Paris à l'époque, parce que Paris n'était pas exceptionnellement sale ni cloaqueux, et qui ont simplement nettoyé, lavé, sans casser. Oui, voilà. Nous, on a pris la décision de tout casser. On a même, dis-toi bien qu'il a cassé le village Notre-Dame, qui était le village qui était autour de Notre-Dame, et que Haussmann voulait casser Notre-Dame. Il trouvait que c'était ringard, Notre-Dame, Haussmann. Haussmann, c'était un dingue. Il a cassé. Bon, et je vais te dire.
Et là, à Louvroil, on a des choix à faire.
Parce qu'on a.
T'es déjà allé à Louvroil?
Ne serait-ce que 42 500,
églises. Etienne, t'as déjà été à Louvroil?
Bien, mais le Nord, moi, je connais un petit peu.
Il connaît bien, Etienne.
Peut-être j'y suis passé, genre, ça m'a pas frappé, hein. Tu sais, c'est des villes assez tristes, hein, faut dire la vérité.
Oui, c'est triste.
Et donc, je pense qu'on a des choix à faire en France et dans chaque commune. Moi, je pense que tout ce qui est jusqu'au 17e et 18e, c'est important culturellement, c'est important. Le 19e, on a des choses que, ce qui est important au 19e, c'est des choses qui ont été faites en métal, etc., du type la Tour Eiffel et tout ce qui tourne autour d'Eiffel, parce que c'est de l'époque et c'est solide. Là, ce sont des copies en stuc de bâtiments qui n'ont en soi aucune valeur, qui étaient faites pour s'autodétruire. On peut pas tout conserver. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment réparable. Parce que je te rappelle, c'est beaucoup du stuc.
Bah, si on met les moyens, si. Probablement.
Et je pense que c'est très cher. Et je pense qu'il vaut mieux. Franchement, quand tu vois, par exemple, comment on a détruit à Paris, la preuve qu'on avait on avait une antiquité, les arènes de Lutèce, il ne reste rien. Alors qu'on avait, pourquoi? Parce qu'on l'a recouvert de parking. On a fait des choses horribles.
Ben là, on va mettre un supermarché.
Je trouve que la question de bétonner systématiquement tous les lieux, est un véritable problème. Et un problème écologique. Là, on arrive au problème écologique. C'est-à-dire
on arrive à problème, notre cœur de cible.
Je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y a pas un autre endroit que dans la ville où il y a un plus des arbres, etc., pour construire un Aldi. Moi, alors, je pense qu'on doit réfléchir, pas tellement sur le bâtiment, parce que je dis, ça vaut rien, mais plus sur la question de la bétonisation systématique de nos villes et de nos villages. C'est un véritable souci. Aujourd'hui, on le paye très cher avec l'écoulement des eaux, mais effectivement, on doit avoir une réflexion. On va pas pouvoir continuer de supprimer tous les espaces verts pour construire du béton partout.
Ça, c'est Madame Hidalgo, ça.
Là-bas, on est dans le vert. C'est pas le problème de l'espace vert.
C'est pas tout à fait le cas.
Après, Aldi, le commerce veut cet emplacement que vous avez vu sur les images. Sur un axe passant, vous avez vu aussi l'état des voiries quand même, pour vous dire que la ville de Louvroil, c'est pas facile.
C'est pauvre.
Donc, et c'est très pauvre, mais bien sûr que c'est très pauvre. Donc ils veulent cet emplacement. Si on leur dit, c'est pas possible, on va garder ce truc-là, on va continuer à vivre avec.
Dans le village à côté.
Ils iront dans le village d'à côté. Qu'est-ce que ça représente pour une mairie quand t'as un commerce de la taille de Aldi qui vient s'installer, ou Lidl, ou Auchan, j'en sais rien. C'est énorme, hein, quand t'as pas un rond dans les caisses et que t'as 20%, ou je sais pas, je vais être conneries, mais entre 15 et 25% de chômeurs dans ce secteur-là, dans la ville, on fait comment?
Après, les
justement, on va en parler avec Romain Vitran, qui est avec nous, qui était les municipales de Louvroil. Bonjour, monsieur Vitran.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission.
Je vous en prie, pourquoi ça devient un enjeu, ce château? Alors, dites-nous.
Parce que d'abord, Aldi est déjà sur l'axe. Et les raisons invoquées par Aldi, c'est qu'ils vont les gens sont obligés de traverser la Nationale 2 pour aller c'est qu'ils perdent de, ils perdent des clients. Bon, ça, ça reste à vérifier. Et ils ont fait du chantage au maire. C'est, s'ils n'avaient pas le terrain là, ils s'en allaient. Mais on sait très bien que si Aldi veut s'en aller demain, il s'en ira, il demandera l'avis de personne. Donc, je trouve ça limite de faire du chantage au maire. Et quand même, ce, cette bâtisse a quand même une grande vie. Elle a été une maternité. Elle a été un lieu de, un lieu industriel parce que derrière il y avait des, il y avait des laminoirs. Donc ça rappelle aussi le passé industriel de la commune, ouais, qui a quand même été très important avec Usinor.
Mais vous n'avez que ça du passé industriel.
Ah, il faut penser à l'avenir aussi.
Tous les yeux,
mais on ne construit pas l'avenir en détruisant le passé. Il faut quand même se.
Des fois, vous faire un morceau comme ça.
Hein. Allez-y. Une ville très industrielle comme le bassin de la Sambre qui fournissait beaucoup de choses à la France. Et c'est des territoires qui ont été abandonnés après. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est très important parce qu'il fait partie, quand vous arrivez à Louvroil, sur la Nationale 2, on le voit tout de suite, c'est comme un emblème, et c'est pour ça que la pétition a eu 3000 personnes à peu près, on est à 2960.
Et combien ça coûterait de restaurer, par exemple, de le transformer en médiathèque?
Ben, une médiathèque, on en a eu une flambant neuve, elle a une dizaine d'années, mais il y a d'autres projets. Ça coûterait plusieurs millions d'euros, certainement. Mais je tiens à dire quand même que la toiture n'a qu'une vingtaine d'années. Elle a été refaite par les Compagnons de France. Donc, c'est pas une ruine. On a l'ancien de dispatching qui était à Usinor, qui est une ruine, qui est complètement à l'abandon. Ça, c'est une ruine. Mais je peux vous dire que le château Lixon n'est pas une ruine. Il n'est pas en bon état, ça serait mentir, mais il n'est pas une ruine. Il est en mauvais état. Mais le toit n'a pas de fuite, aux dernières nouvelles. Et les murs sont encore sains. Donc voilà.
Mais vous êtes d'accord parce que vous êtes d'accord quand même pour penser. Je suis d'accord. C'est vraiment le symbole du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est l'industrie de métallurgique et puis là c'est peut-être la maison des patrons ou des. Mais reconnaissons que dans les choix culturel en France de maintien du patrimoine, nous avons des églises, des chapelles du 17e, du 16e, on a même des œuvres du 15e siècle qu'il faut absolument protéger, qui sont en grande fragilité. Il y a eu, par exemple, quand il y a eu les bombardements à la fin de la guerre, la moitié de nos églises et cathédrales ont été détruites. On les a reconstruites un peu à la va-vite et un peu n'importe comment. Aujourd'hui, on est en train de payer ça. Il faut qu'on rebâtisse ces bâtiments qui datent parfois du Moyen Âge. Et que le 19e siècle dans les choix à faire ne peut pas être prioritaire.
Non, il peut pas.
Et là, c'est un lien affectif qui est mis en avant.
Je suis sûr qu'il faut prioriser l'histoire, ça, c'est un autre problème. Moi, je suis très attaché à l'histoire, j'ai même fait 2 années d'histoire à la fac. Mais je ne suis pas sûr qu'il faut prioriser l'histoire. Mais ce château a quand même eu un vécu, il a quand même une âme. Et je trouve quand même. Dommage de le raser, surtout pour un Aldi. D'autres terrains existent dans la commune, comme je l'ai dit à vos confrères de BFM Grand Lille. Il y a d'autres terrains dans la commune qui sont complètement à l'abandon. Vous allez derrière le château, pas très loin du complexe.
Mais Aldi veut ce terrain-là,
vous
monsieur.
Avez un
alors,
grand
j'entends
terrain
bien, mais.
À l'abandon.
Et vous voulez mettre quoi si c'est pas un supermarché?
Vous allez pas pouvoir décider où vous allez mettre les gens comme ça sur un coup de doigt. Il y a des gens qui font du commerce, ils veulent cet emplacement-là.
Oui, mais ils sont déjà là.
Ils sont de l'autre côté de la Nationale 2, ils voudraient changer, mais c'est
non
pas...
Non, mais moi je comprends, écoute-moi, moi je comprends monsieur Vitran, alors aujourd'hui, Étienne, il est devenu architecte des bâtiments de France en disant, c'est des châteaux du 19e, on s'en fout, faut les détruire et passer à autre chose. Mais regarde, mais Étienne, regarde aujourd'hui à quoi commencent à ressembler nos villes, je remercie monsieur Vitran d'être avec nous. Là, je faisais le compte hier, parce que comme je savais qu'on ferait le sujet, je regardais pas très loin de là où j'habite, sur 4 pâtés de maison, 6. Tu as 6 mini-markets, 6 supermarchés, sur 4 pâtés de maison.
Oui, c'est vrai.
Dont un, l'autre jour, je discutais avec le gérant, il me dit, il faut quand même reconnaître qu'en général, on fonctionne qu'à 30% de ce qu'on devrait on devrait fonctionner. Donc, est-ce qu'on doit être aujourd'hui dans les villes, y compris dans des arrondissements chics de Paris? Oui, mais justement, est-ce qu'on remet une enseigne,
si tu veux, c'est que nous avons un bâtiment privé.
Ça vaut le coup pour une mairie à ce moment-là.
De racheter.
ou de racheter, ou de trouver un investisseur local. Et dans le Nord, il y a des grandes fortunes de France, il y a des mécènes, et de lui dire, qu'est-ce qu'on fait?
Vous êtes en plein délire, les gars, vous êtes en plein délire.
Mais non, on n'est pas en plein délire.
Arrêtons d'être des grands juges, des justiciers de tout. Il y a une commune qui se démerde comme elle peut, ils sont dans la merde économiquement, ils vont probablement vendre, laisser la vente de château se faire parce qu'ils vont mettre un lit, et puis c'est tout.
Et puis c'est un privé.
Ah, et puis c'est la mairie, puis faites confiance aux élus.
Ça fera un énième supermarché. Voilà, c'est pour ça que je te dis, quel est le choix de ville que l'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on essaie de donner simplement un petit souffle culturel? Est-ce qu'on essaie de trouver un mécène? Est-ce qu'on essaie de se dire,
on va trouver.
Mais ils sont intrinsèquement liés.
Le fait que des propriétaires privés désirent vendre leurs biens parce que.
Mais la mairie a tous les pouvoirs, elle peut préempter une mairie, elle peut s'opposer.
Elle peut préempter si elle a les moyens de préempter.
Si elle a les moyens, elle n'a pas les moyens.
Je te signale que même dans des villes riches, au bout d'un moment, ils n'ont plus le moyen de préempter.
Imagine, alors comment ça va faire? Bah, comme ça va finir comme d'habitude, on connaît ça par cœur dans notre territoire.
Nord, ouais.
Il va bien finir par y avoir 2-3 millions d'euros de débloqués pour refaire ce truc, qui servira à peu près à rien. Dans le cas, on mettra 6 personnes qui servent pas plus à rien.
La région peut se mobiliser aussi.
La région, elle en a marre de payer des trucs comme ça. Putain, mais il y a des urgences sociales dans ce pays bien autrement que celle-là, là.
Non, puis même des urgences.
Faut arrêter, même des urgences de
bâtiments de
France. Enfin, il y a des urgences de bâtiments.
Nous, on a 7 supermarchés autour de chez nous, mais là, ils en ont probablement moins. Il faut des plus grands supermarchés.
Lui, il est conseiller municipal d'opposition. C'est un buzz d'enfer. Il passe à la télé, c'est super. Faut arrêter. Il y a une équipe, le maire, c'est pas un idiot. Alors, c'est ce qu'il a à faire.
Monsieur Vitran, vous répondez à cette interpellation, alors.
Oui, écoutez, à Louvroil, on a quand même une très grande zone commerciale, Auchan. Voilà. C'est la plus grande zone commerciale de l'agglomération. Elle va s'étendre aussi encore avec une centaine de magasins, le village des marques. Donc, à Louvroil, on ne manque pas de magasins. Je ne suis pas contre que Aldi s'installe à Louvroil, mais il y a d'autres terrains. Et l'urbanisme quand même, comme vous avez quand même évoqué l'urbanisme, est-ce qu'on veut de l'urbanisme avec des hangars très moches, ou alors on veut quand même que nos villes ressemblent à quelque chose?
Il n'existe plus d'urbanisme et d'hangars très moches, monsieur.
Vous n'avez pas vu, à mon avis, les plans.
Vous êtes obligé de suivre aujourd'hui des choses précises pour faire des bâtiments, même commerciaux.
Non, mais ce sera moche, de toute façon.
Attendez, laissez finir, monsieur Vitran.
Le Aldi est très moche, c'est un hangar.
Bien sûr,
il n'est pas fait pour être beau.
Attention.
Il va cacher une maison quand même art déco, une très belle maison qu'on a art déco à Louvroil. Donc, c'est quand même dommage. Et les gens ne vont voir que le Aldi sur la Nationale 2 quand ils passeront à Louvroil.
Mais est-ce qu'il y a eu une étude qui a été menée pour dire, voilà, le bâtiment va nous coûter tant, parce que c'est un bâtiment privé, il va nous coûter tant, on va faire la préemption, et puis ensuite il va nous coûter tant de restauration, pour en faire quoi et quels salariés vont être à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une étude? Parce que je sais que vous n'êtes pas dans une région très riche, précisément, parce que la métallurgie c'est mort, et donc vous devez être vraiment, ça doit être sur les dents.
On va continuer d'en discuter, merci Romain Vitran d'avoir été avec nous, ce petit château du 19e là, qui est derrière nous, est-ce qu'on doit le garder à Louvroil dans le Nord, ou le démolir pour mettre un supermarché Aldi? La discussion continue. Plus largement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu qu'est-ce qu'on fait de nos villes aujourd'hui. 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Sarah Salman, avocat. Nous sommes avec Willy Schran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, et c'est Étienne Yebig, éducateur anthropologue, qui nous accompagne. Tout à l'heure à 11h, on a un GG 7 et match sur la réinstauration éventuelle du cumul des mandats, que les élus puissent de nouveau être députés et maires en même temps. Ce non-cumul avait été voté en 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans. Il estime aujourd'hui, c'est sa proposition à l'ancien maire de Poissy, au député Karl Olive, il est temps que nos élus ont besoin d'expérience, et que l'expérience du terrain, quand on fait voter les lois, il n'y a rien de mieux. Et qu'en étant maire, au moins, on sait ce que l'on fait voter quand on devient député. Alors, est-ce qu'on doit rétablir le cumul?
Regarde mon argument.
Le cumul des mandats, oui ou non?
Moi aussi.
On a une équipe, oui. On a une équipe, oui. Il faut revenir à ce cumul avec Willy Schran et Sarah Salman. Et on a un nom, seul contre tous aujourd'hui, Étienne Liebig, ce sera tout à l'heure avec nous.
Il kiffe
à 11h. On continue de discuter de ce qui se passe à Louvroil dans le Nord avec ce château du 19e qui sera rasé pour laisser la place à ce mini-market, ce supermarché. C'est Stéphane qui veut en parler avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour les GG, comment allez-vous?
Bien mon cher Stéphane. Vous êtes dans le Nord, à quel endroit précisément?
Alors moi je suis de Douai. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de vous voir le 8 avril à Amiens, puisque je suis d'origine amiénoise.
Vous étiez donc passé nous voir, oui.
Voilà, exactement. D'ailleurs, non, on a eu un super temps.
Ah oui, vous avez raison. Oh, qu'est-ce qu'il a plu. Oh, la vache, ouais, ouais, effectivement.
Pendant toute l'émission. Ouais, et donc, j'étais le seul à être assis derrière Mourad, puisque moi, je suis en invalidité, et Anaïs m'a eu la gentillesse de me proposer une chaise.
Je me souviens.
Oui, je me souviens très bien, effectivement. Stéphane, alors, qu'en dites-vous de ce débat, alors?
Ah ben, moi, ça me fait halluciner, hein. Parce que, comme j'expliquais aux standardistes, moi, je vis dans une maison classée patrimoine de France, qui a plus de 200 ans, à Douai. Et donc, je n'ai pas eu le droit de mettre un volet roulant, alors que je suis au rez-de-chaussée. Mm-hmm. Et là,
c'est monument,
parce que je passe trois recommandés. Un au propriétaire qui a un privé à Versailles, à la mairie et au patrimoine de France. Sauf que la mairie et le propriétaire étaient d'accord, puisqu'il était même prêt à me payer le volet roulant, le propriétaire. Sauf que le patrimoine de France en refusait. Donc, bah, du coup.
Bah, c'est normal, ça.
Alors, bah oui, mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas le droit de mettre un volet roulant parce que c'est une maison classée patrimoine de France. Et là, j'entends qu'ils vont aller raser un château.
Parce qu'il n'est pas classé, ni inscrit.
Il est pas classé.
Ils sont pas protégés au titre des monuments historiques.
Il peut pas être classé, il est inclassable. Ils n'ont pas voulu.
Il peut pas classer les bâtiments du 19e comme ça, c'est pas possible. Il y en a des millions et c'est tout des maisons en fait,
c'est des hôtels particuliers.
C'est des hôtels particuliers, c'est pas des châteaux, ils n'ont pas d'histoire.
Ils remplissent pas les conditions, tout simplement.
Ouais, mais quand même, quand on voit la bâtisse, ça.
Mais c'est pas quand on la voit, c'est qu'il y a des critères à respecter.
Il y en a des milliers dans le Nord et comme ça, des milliers.
Il y en a partout,
Oui, mais alors, c'est ça que je comprends pas, parce que toi-même, Stéphane est dans un cas particulier, puisque lui, c'est classé bâtiment historique, donc effectivement, tu peux pas toucher. Ne serait-ce que mettre un tableau, tu peux pas, entre guillemets, mais toi qui es attaché quand même à cette région, ton Pas-de-Calais,
très fort.
Tu le dis toi-même, ces bâtisses, il y en a des centaines, il y en a des milliers localement. Et elles font partie, c'est un peu l'âme du Nord aussi, ces grandes bâtisses.
Ouais, mais
c'est comme si on enlevait
des filatures, des tissus. D'accord, j'entends.
Voilà. Et si on commençait à enlever toutes les maisons en briquettes rouges aussi, c'est un peu la même chose. Il y a plein de pétitions qui disent aujourd'hui il faut garder les rues historiques, il faut garder ce qui aujourd'hui fait le cœur du Nord.
Ce que je ne veux pas, c'est qu'on tombe dans cette psychose. Comment on problème écologique, comme avec l'écologie. Aujourd'hui, on figerait totalement les territoires en dehors de Paris au nom, effectivement, d'une protection d'un patrimoine qui n'en est pas réellement un dans sa valeur. Voilà. Il y a un moment, il y a des gens qui vivent sur ces territoires, il y a une économie, c'est dur, c'est pauvre. Donc voilà, ce que je veux pas, c'est qu'on tombe dans la petite côte. Il faut des fois
l'économie prime surtout aujourd'hui.
L'économie rurale dans des lieux comme ça où il y a que ça. Oui, bien sûr,
mais ça peut être un peu pragmatique
des gens
aussi.
Qui vivent là. Alain, si quelqu'un, comme ça se fait, d'ailleurs ça se fait couramment en Bourgogne. Il y a des châteaux, des vrais châteaux qui sont du 17e, 18e en Bourgogne, ça coûtait il y a 100 000 euros il y a pas très longtemps, abandonné. Des gens arrivaient, tombaient amoureux de ce lieu, ils avaient de la thune, ils donnaient 100 000, et puis avec 500 000 autres euros, ils restauraient la baraque. C'est à eux, perso. Comme ils ont un peu de fric des monuments, ou comme ils ont un peu de fric de la commune, eh ben, une fois par mois, ils sont obligés d'ouvrir, pour que les gens aillent visiter. Et c'est monsieur le châtelain qui dit, bah voilà, ici il y avait ça, ici il y avait ça, aujourd'hui il n'y a plus rien, mais c'était vachement mieux avant. Et on est tous contents, voilà. Ça fait partie du deal avec le truc. Donc si quelqu'un a le fric, si moi j'ai le fric pour racheter cette bâtisse en disant
et la transformer,
moi je veux bien l'acheter 10 000 balles,
la rénover quand même,
10 000 balles, et après faut que j'en aligne 300 000 ou 1 million pour le restaurer, il est à moi. Si la commune me file un peu de thunes, eh ben j'ouvrirai une fois tous les ans et je dirais, voilà, vous voyez, c'est vachement beau. Avant, il y avait une filature, eh ben il y en a plus. Et voilà.
Je me souviens que dans le Nord,
ça s'appelle le privé.
C'est intéressant parce que je me souviens que dans le Nord, il y avait une opération il y a une dizaine d'années de maisons à 1 euro.
Ben oui.
Tu te souviens justement pour inciter, tu as acheté une maison à 1 euro pour venir t'installer et retaper aussi les maisons et redonner un peu de vie économique. Donc c'est ça qui est intéressant.
Ça a pas marché.
Tu peux pas non plus, si tu veux dire, il y a de la désertification et puis on a que des zones commerciales autour de villes qui se meurent et pas faire en sorte aujourd'hui de rendre le cœur de ville, attractif. Tiens, tu es musicien. Pourquoi il y a pas une association point de répète un mini conservatoire ou
ça fait des années que c'est à vendre. Il y a personne qui en veut.
Il y a quelqu'un qui a l'acheté.
Personne qui en veut. On va encore mettre ça sur le dos de l'argent public.
Sauver un bâtiment. bâtiment qui n'en vaut pas le coup
d'abord,
par rapport aux
voilà,
autres.
Qui en vaut pas le
il
coup.
Faut le rénover entièrement.
On va remettre du pognon là-dedans. Argent public, on va créer
ça,
des emplois
dans toutes les
pour
villes de France aujourd'hui.
C'est pas la priorité.
Sinon, je te dis, il y a des endroits qui sont attractifs, comme la Bourgogne par exemple, où il y a des tas de, mais des dizaines de châteaux qui se sont vendus à des privés, donc des châteaux en ruine, dont ils ont fait des gîtes ruraux, etc., etc., là où on bouffe à la ferme, etc., et où c'est des anciens châteaux.
On peut faire une chambre d'hôte là.
Et ben, tu peux faire une chambre d'hôte, mais il faut quelqu'un au départ qui dit bon, j'ai la thune pour le faire, je prends le risque de le faire et je restaure. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Nous sommes avec Patricia. Bonjour Patricia.
Bonjour.
C'est vous qui allez conclure notre discussion, Patricia. Patricia de Haute-Garonne. Pourquoi vous êtes sensible à cette histoire, à cette polémique sur cette maison?
Mais en fait, mes grands-parents vivaient à Louvroil. Et mon oncle était maire, a été maire de Louvroil, Monsieur André Boquet. Et je sais que quelque part, il serait encore là, il se battrait pour cette maison.
Pourquoi dites-vous ça?
Il avait quand même un amour profond pour cette ville. Mm-hmm. Il aurait trouvé, par n'importe quel moyen, il aurait trouvé le moyen de réhabiliter ce monument et d'en faire quelque chose, quitte à s'embêter.
Et vous voudriez le reprendre?
Si j'avais les moyens et s'il revenait dans le Nord, oui.
Mais c'est la vraie
question. Elle est en vente depuis longtemps, personne ne l'a racheté.
Oui, voilà, malheureusement. Mais
c'est l'image de la ville, c'est ça?
C'est quelque chose que j'ai toujours vu. Moi, je suis partie du Nord avec mes parents à l'âge de 6 ans et j'y revenais tous les ans quand j'étais gamine. Et j'ai toujours vu ce monument, enfin cette maison. Et ça, franchement, ça me...
Oui, c'est triste.
En voulant être mal poli, ça me brûlerait le cul qu'elle soit plus là, quoi.
Ah oui, carrément. Parce que c'était un peu l'âme de la ville, quoi, en fait. Ça, c'était un pilier dans la ville.
C'est un carrefour. On arrive, on est en face de cette maison et elle est magnifique, quoi.
Et là, on va arriver, on va être en face du supermarché.
Limite, j'aurais préféré encore, à la rigueur, me retrouver face à face.
Attendez, Patricia, allez-y, pardon.
Allez-y.
Et j'aurais dit, je disais que quasiment, j'aurais préféré me retrouver face à face avec un cimetière plutôt qu'avec un Aldi à la place de la maison, quoi.
Quoi?
Un cimetière. Plus ça va.
Un cimetière. Il est à côté.
Faut peut-être pas la pousser, là.
Ouais, mais cimetière facile d'accès.
Madame a raison sur le fait que le problème, c'est que les gens qui ont aujourd'hui la thune pour acheter cette maison, ils s'appellent Aldi. Et que malheureusement, ils s'appellent pas conservatoire de musique où on va apprendre à jouer de la clarinette. Et évidemment, moi aussi, je préférerais que ça devienne des salles qu'on isole et on fasse de la clarinette dedans pour les enfants.
Un cabinet secondaire d'avocat.
Ce serait le paradis. Oui, on préférait tous ces personnes qui a du plaisir.
Oui, ou des logements. Ou des logements.
Il y a personne qui a du plaisir à avoir rasé ça. C'est pas ça le problème. Il y a un moment, il y a de l'économie, il y a des enjeux. C'est très dur dans ces régions. Bon, c'est tout, s'il n'y a pas de solution.
Vous savez, madame, vous dites logements sociaux, mais vous savez que ça coûte beaucoup plus cher. Ça m'est arrivé de participer à des échanges à la mairie. Ça coûte beaucoup plus cher de restaurer cette maison pour en faire des logements sociaux que de reconstruire un logement
social. Mais logement social, il y a une vraie utilité.
Tu vois, quand tu lis les articles et les histoires ou les commentaires dessous disent, ouais, mais après, faut pas s'étonner aussi qu'une partie de la jeunesse s'en aille, quitte ses...
Simplement parce que quand il y a le potentiel
pour faire quelque chose d'attractif ou rénover ou faire de la musique ou faire du cinéma ou essayer de trouver quelque chose de dynamique,
les gens,
de neuf,
ça
s'arrête et ça devient soit un supermarché, soit ça devient une enseigne de restauration rapide.
La jeunesse, qu'est-ce qui fait rester dans ces territoires-là que je connais très bien? Qu'est-ce qui fait rester la jeunesse?
Il n'y a que l'emploi.
Ils n'en ont rien à foutre, les gamins du château Lixon, qui n'est jamais qu'une grosse maison. Mais si Aldi s'installe et double de surface et embauche 10 personnes de plus, c'est 10 familles qui pourront rester sur la commune de Louvroil. C'est tout.
Et ça va créer de l'emploi aussi.
Bien évidemment.
Allez, on va regarder la consultation. Est-ce qu'il faut raser ce château et mettre en place un supermarché? Est-ce qu'on protège assez notre patrimoine? C'est quand même un non à 83% pour ceux qui suivent. Allez, dans un instant, le quiz des GG et le journal du off avec Madame Borne qui parle de sa vie privée. Il y avait une rumeur comme quoi elle vivait avec une femme, la première ministre.
et elle en parle.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui notre trio Étienne Liebig, anthropologue, éducateur en Seine-Saint-Denis, Sarah Salman, qui est avocate, et Willy Schran, élu dans le Pas-de-Calais, qui est chef d'entreprise et président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Reprends ton micro, mon cher Willy.
Parce qu'il reprends ton fusil, mon cher Willy.
Je suis prêt.
Ah, c'est une fine gâchette, le gars.
J'ai pas fait gaffe qu'il était tout côté, pardon. Voilà.
Rappelle-nous ta commune dans le Pas-de-Calais.
Bonjour, Bayinghem, les Éperlecs.
Eh ouais.
Alors, il faut le prononcer. Ouais.
Bah ouais, c'est là-bas qu'il faut aller
tirer. Ah bah ouais, c'est aussi à
Paul Lassène, notre coproducteur, qui nous a rejoint parce que ça va être le quiz des GG.
Salut Polo.
Salut à tous.
Ça vaut cher au Scrabble.
Wesh, Paul.
Attention.
Ça vaut cher au Scrabble. Le...
Ah oui,
Bayinghem, les Éperlecs, sauf que tu peux pas le passer.
Il y a trop de lettres, on les a pas en une fois.
Allez, on y va d'abord pour le journal du off. Mais des rumeurs sur la place parisienne concernant la vie sentimentale de Madame Borne, Elisabeth de son prénom, première ministre de sa fonction, qui courait depuis sa nomination à Matignon. Et en fait, comme quoi elle était en couple avec une femme. Ça, c'est les rumeurs parisiennes, comme on dit, vous savez, qui tournent, qui circulent. Et alors, dans le magazine Gay, têtu auquel elle a accordé un entretien avant de partir en vacances, on lui pose carrément la question sur ces rumeurs qui prétendent qu'elle aurait été donc en couple avec une femme. Et si c'est le cas, répond Madame Borne, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit. Est-ce qu'elle a eu raison de tordre le cou à ces rumeurs? Oui.
Bien sûr qu'elle a raison, c'est sa vie privée. Si elle n'a pas envie de l'étaler sur la place parisienne, vu que c'est circonscrit à Paris, c'est son droit. Moi, je ne vois pas pourquoi elle le dirait. Et je trouve que sa rhétorique était impeccable, vraiment. Parce qu'au final, elle répond sans répondre.
Ça veut dire quoi, elle répond sans répondre? Si ça avait été le cas, pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas dit?
Bah, elle ne dit pas non plus que c'est le cas. Elle dit rien, en
donc
fait.
Donc, elle
mais
entretient...
Pour moi, elle entretient le mystère, mais à la limite, est-ce que ça nous regarde? Moi, la vie privée de Madame Borne, je m'en tape complètement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait pour la France? Qu'elle soit en couple avec un homme, avec une femme, moi, j'en ai strictement rien à faire.
Avec un chasseur, même?
Oui, non, mais... peut-être.
Ou éducateur, ou
éducatrice. Ce qui est intéressant...
Ou un coproducteur.
Ce qui est intéressant, c'est que... Elle est quand même obligée de tordre le cou à cette rumeur, oui, parce
c'est elle est obligée de rien du tout. Elle choisit de faire cette interview
à
têtu.
Si elle le dit, c'est qu'elle elle sent que c'est le moment, il faut qu'elle le fasse.
Mais non, on lui pose la question, non. Elle répond, elle est obligée de rien du tout. Elle avait qu'à
refuser l'interview chez têtu.
Oui, c'est ça.
Elle l'accepte.
Attends, excuse-moi. Tu vas à un interview, je pense que tout cela est extrêmement réfléchi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, bizarrement, pour une raison que je ne m'explique pas, le fait qu'on suppose qu'elle soit avec une femme la gêne, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc, en allant chez têtu, évidemment, elle sait que la question va lui être posée, puisque c'est un magazine pour les gays. Ça, c'est autre chose. Et un magazine pour les gays. Et donc, elle sait qu'elle va devoir répondre. Donc, et voilà. Donc, c'est très réfléchi, c'est très préparé. Sinon, elle aurait donné
une interview
à la Croix.
Elle ne dit pas qu'elle n'est pas lesbienne, elle dit qu'elle ne vit pas avec
quelqu'un. C'est ce que je te dis. Elle ne répond pas à la question.
Après, pour le reste, je suis comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en a
fou? Je m'en fous, mais je m'en casse.
Enfin, c'est vrai.
Elle fait ce qu'elle veut.
Elle répond pas à la question.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que tout le monde s'en fout, et en même temps, la vie privée des politiques, comme d'ailleurs la vie privée des stars, elle résonne chez nous de façon très forte. Donc, c'est facile de dire je m'en fous.
Tu crois vraiment
c'est facile
que les
de
gens
dire je m'en fous, mais en réalité, bah oui, quand on voit par exemple.
Pour la sexualité de la première
quand
ministre.
On voit l'intérêt que les gens portent à la vie privée des personnes
bah,
connues.
Bon, alors, il y a d'autres mondes, alors
même si tout le monde dit je m'en fous, en réalité, on sait que tout le monde ne s'en fout
non,
pas.
Non, pour le président de la République, on ne s'en fout pas, et ça, c'est une réalité.
Alors, pourquoi?
On s'en fout pas. Enfin, en tout cas, l'opinion publique ne s'en fout pas. Pour la première ministre, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout.
C'est pas vrai. Je crois pas. Je crois que c'est.
Il y a une première dame. C'est vraiment officialisé. Premier ministre, c'est pas le cas.
Je crois que personne ne le dit, mais que tout le monde.
Moi, ça m'intéresse pas.
Ce qui est assez bizarre encore, assez paradoxal dans notre pays, c'est qu'on se veut toujours un pays ouvert, de liberté. Aujourd'hui, tu as des ministres
très bizarre
qui disent qu'ils sont mariés en couple homo ou en couple hétéro.
Oui, mais si tu remarques, c'est les hommes qui le disent plus
regarde,
que les femmes.
En fait, c'est pernicieux et pervers.
Tout à fait.
C'est-à-dire que cette rumeur, souviens-toi, il y avait la même sur Emmanuel Macron pendant un temps.
Ah oui, c'est vrai.
Tu te souviens aussi comme quoi il était avec un
homme avec Brigitte.
Il avait un homme ou quoi que ce soit et que Brigitte Macron aussi était transsexuel. Il a fallu des actions en justice. Donc, si tu veux, c'est ça qui est Mais c'est perfide, c'est pernicieux.
Ah oui, c'est
pernicieux.
C'est-à-dire
que le truc est entretenu suffisamment
avec les
réseaux sociaux.
Non.
Et là, je vais te dire, je l'ai encore lu sur les réseaux sociaux et c'est relayé des milliers de fois, qu'à un moment ou un autre, ça pousse le ministre, ça pousse la personnalité à trouver
alors,
un billet,
disent, je m'en fous,
un magazine, pour dire, voilà, je vais quand même le placer, je vais quand même le
tout
dire, je le pose en espérant que ça se termine.
Ouais, pas justement. Alors dans ce cas-là, j'entends ce que tu dis, c'est pas terminé. Après ce qu'elle a répondu,
elle a
au contraire.
Répondu.
Elle a dit que si elle avait été en couple, elle l'aurait dit. Elle n'a pas dit, mais non, je ne suis pas
elle
du
pas
tout...
Elle n'a pas dit, j'aime pas les femmes. Elle a juste dit qu'elle n'était
exactement,
pas en couple
donc,
avec une femme.
Pas,
donc elle n'a
pas tordu quoi que ce soit au niveau du coup de la rumeur. Limite...
Elle a entretenu le doute.
À l'inverse de ce que
moi
tu
aussi.
Dis.
Ah bon moi aussi.
Moi, ouais. Je l'interprète comme quelqu'un qui dit, mais je ne suis pas en couple, mais si je l'avais été, je l'aurais dit. Mmh. Ça ne pose aucun problème.
Mais je ne dis rien sur ma vie.
Pour moi, elle n'a pas répondu à la question.
Si on doit rentrer dans ce débat entre nous, ok, pour moi, la façon dont elle répond, c'est plutôt l'inverse.
Alors, pour moi, c'est je ne sais pas.
C'est, elle préfère entretenir l'ambiguïté.
Pour
alors,
moi, oui.
Elle n'est pas. Alors,
elle n'a pas tranché la question, en tous les cas.
Mais ça dit aussi que ça dit aussi une chose. Ça veut dire que l'homosexualité, pour une personnalité publique et politique,
femme.
Même si des ministres ont dit qu'ils étaient en couple avec des hommes ou qu'ils étaient mariés, mais pour une femme,
oui, mais
ça
c'est
reste
pour,
un sujet très tabou.
Alain, c'est
absolument.
Pour une femme,
exactement.
Parce que quand c'est un homme, il l'affiche et il le dit,
oui,
et on peut prendre Gabriel Attal, Clément Beaune, c'est affiché. Quand c'est une femme, il n'y en a, à ma connaissance, aucune qui ne l'a affiché.
Pour une femme, ça pose un différent.
Le regard. Il y a une asymétrie par rapport à ça.
L'image de beaucoup de choses pour les femmes, d'ailleurs, c'est toujours plus difficile quand c'est les femmes.
Elle avait dit dans Elle, d'ailleurs, à propos de sa vie privée, confidence sur son histoire d'amour avec son compagnon.
Ah oui.
Je le vois de temps en temps, mais je ne veux pas qu'on l'emmerde, elle avait dit à Elle. D'ailleurs, je ne suis pas prêt à l'exposer quand vous voyez la façon dont votre vie privée peut être fouillée avec des articles qui citent le nom du père de mon fils dont je suis divorcée. Et elle dit, je n'habite pas avec mon compagnon, il vit en partie en Bretagne et je veux simplement l'épargner par rapport à ce qui est aujourd'hui, ma vie politique et ma vie publique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Madame Borne et ce qu'elle laisse filtrer sur sa vie privée. On y va pour le quiz des GG maintenant.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Petit moment de détente ou petit moment d'humiliation aussi par moment.
Oh là là,
C'est pas ma volonté en tout cas.
Et les vacances.
Hein, Monsieur Paul Lassen, c'est parti.
Alors, avant de commencer le quiz à proprement parler, je vous propose d'écouter les grandes gueules ce que je vous racontais la semaine dernière, mardi dernier. L'OGC Nice a annoncé hier le recrutement du milieu de terrain gallois Aaron Ramsey. Mais quelle malédiction lui colle à la peau depuis 2011 à Aaron Ramsey?
Je sais pas.
Non, j'en
sais pas.
Ligament croisé.
Non, il a payé ses RTT.
Non, il a.
Figurez-vous, il est toujours blessé.
Que ses buts tuent des gens. Un pronostic sur le prochain mort?
Ça va pas ou quoi?
Ouais, et patatras, dimanche, Aaron Ramsey a joué son premier match avec l'OGC Nice.
Écoute.
Il a marqué dimanche, et hier soir, qu'est-ce qu'on apprenait? Et oui, hier soir, on a appris le décès de l'actrice Olivia Newton-John, connue notamment pour son rôle dans Grease, alors les pantalons de cuir que Sarah apprécie, les jeans trop courts que Willy apprécie également, et les salopettes qu'Étienne porte en dehors de l'antenne. Donc, malédiction qui se confirme malheureusement, c'était aussi évidemment pour rendre un petit hommage
à Olivia Newton-John,
à cette grande actrice. Donc, après le mystique du joueur qui tue des gens avec des buts, je vais vous parler de sociologie. Mais de sociologie pas très chiante, puisque je vais vous parler d'apéro avec une étude. Dis-moi pour qui tu votes et je te dirai ce que tu bois. Alors, à votre avis, les GG, que boit-on quand on est de gauche comme alcool?
Du Mojito.
Faut demander à Étienne.
Bravo, Sarah.
Quand on est de
gauche. Mais comment tu connais?
Alors, moi, j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Je n'en ai jamais bu de ma vie.
Le Mojito, c'est de gauche.
Mais j'ai vu qui buvait. J'ai vu cette étude.
Je ne savais pas que j'étais de gauche. J'aime bien Mojito.
Bah, au moins, on t'a appris quelque chose ce matin, Willy. T'as bien fait de venir.
Ouais.
Quand tu n'en boiras plus.
Ah, si.
Non.
C'est quoi la
champagne
question
de droite.
Non. Le pastis.
Non.
Pastis.
Ah non, le spritz. Non, c'est Macron.
Les vins cuits.
La bière.
Non.
Non.
De droite, le vin blanc.
Non.
La tequila.
Alors, on a envoyé la bonne réponse, mais vous ne l'avez pas.
La Pirinia.
Non. Ah, tu as dit whisky ?
Oui, oui.
Ah ben, je ne t'avais pas entendu.
Non, j'ai dit whisky, oui, oui.
Tu as la bonne réponse.
Donc, quand on est de gauche, c'est un mojito, et quand on est de droite, c'est un whisky, mais c'est resté figé aux années 70.
C'est ça, la droite.
Mais ce qui a sorti,
c'est pas fini.
Quand on est d'extrême droite.
La tequila.
Non.
Le pastis.
Oui.
Ah bah alors c'est encore plus ringard.
Et enfin, quand on est macroniste,
le spritz.
Ouais,
le spritz.
Vous êtes très fort en alcool.
En bibine, on est bon. Se poser des questions.
Donc le macroniste boit un spritz, la Nupes prend un mojito, chez les Républicains
un petit verre de whisky.
Un petit verre de whisky
sec ou pas, on ne sait pas.
Et quand on est Rassemblement National, c'est un
pastaga. Et Zemmour aussi.
C'est un peu alors là, c'est la catastrophe, les gars. J'aime pas le Ricard, j'aime pas le whisky, je bois des spritz et des mojitos, et Etienne, faut qu'on parle en sortant.
Tu as un
macroniste
de
gauche. Je ne me reconnais plus.
Et toi, Etienne, tu bois quoi?
Moi, je bois
avec modération, bien sûr.
Du vin blanc.
Du vin blanc, ouais, c'est bien aussi.
Lequel?
Un vin blanc de Bourgogne, par exemple, ou un petit Chablis.
Mmh. Ah ouais, c'est Bourgogne, on confirme.
Ah ouais.
On continue, monsieur Paul.
Les grandes gueules, depuis plusieurs jours, on suit les aventures de ce beluga qui a installé son bivouac dans la Seine. Les sauveteurs essayent de le nourrir pour éviter que sa santé ne se dégrade avant de pouvoir, a priori, de le déplacer dans la mer.
Est-ce que ça va coûter encore ces conneries?
Ah, ça, c'est un autre débat. Mais nos confrères de France Info ont révélé hier l'un de ces menus. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des hot dogs, des fruits frais ou des calamars surgelés
chez Picard? Calamars surgelés,
ouais. Oui, alors c'est assez surprenant. Donc, évidemment, on lui a fourni du poisson frais. Mais pour varier un peu ce qu'il mange, on a aussi, c'est hier, il me semble, on lui a donné des calamars de chez Picard.
Il n'aime pas Picard. Il n'a pas voulu les manger.
C'est-à-dire que c'est compliqué d'en trouver dans la Seine, là, des calamars vivants, frais.
Alors ils vont prendre.
Explique-nous. C'est une connerie d'essayer de sauver ce beluga.
On est tous d'accord pour s'occuper des animaux. Qu'est-ce que ça va coûter, ça? Il y a des gens qui sont dans la misère tous les jours.
On va aller chercher.
Et alors?
Mais c'est
comme n'importe quel être vivant. Peut-être que l'animal est malade, neurologiquement foutu, j'en sais rien. Il est parti dans un cours d'eau, il n'aurait jamais dû venir là. Il est très affaibli, il est amaigri, il ne veut pas se nourrir. Il y a un moment, il faut arrêter.
Tu laisses faire la nature.
Il n'a rien à foutre là. Il y a des gens qui sont dans la misère tous les jours. Combien va dépenser pour foutre ce beluga dans un bateau, un camion ou alors par hélico, j'ai tout entendu comme connerie, pour aller le ramener dans la mer, et il crèvera de toute façon 15 jours après.
Moi je pense qu'il faut l'aider. Mais
ça fait une superbe pub à Sea Shepherd devant, qui amène les calamars, ouais, les animaux, génial et
moi,
tout.
Arrêtons les conneries. Ce serait inhumain de le laisser mourir comme
ça. Toi, ça tombe bien, c'est inhumain et c'est pas un homme. Avant de faire
c'est le geste qui serait inhumain.
Travaillons sur les élevages et puis sur d'autres trucs.
D'autres
choses à faire pour les animaux et pour le bien des animaux.
Pour les animaux aussi, tu as raison.
Et franchement, oui, effectivement, là, c'est la nature. Et il se trouve aussi qu'il y a des oiseaux qui se perdent, qu'il y a des. Voilà, ça fait partie du cycle de la nature. Par contre, tout ce qui est de l'influence de l'homme sur cette question-là, on peut-être le réduire. Et c'est vrai que les animaux, par exemple, tous les insectes qui sont morts pendant les incendies.
Ah, je peux pas mieux voir les incendies.
Pendant les incendies, c'est quelque chose d'absolument terrible sur la faune.
Toi, tu choisis tes animaux, toi.
Oui. L'araignée, c'est en dessous. Le chihuahua, c'est en haut.
Le chihuahua. On a peut-être plus besoin des araignées que du chihuahua, d'ailleurs.
Je peux pas l'araignée.
Moi, j'adore les insectes.
T'adores même l'araignée?
J'adore tout. C'est pas un insecte.
C'est pas un insecte. Mais l'araignée, tu l'aimes?
Oui, bien sûr.
Moi, je suis en panique totale.
Bien sûr, j'adore.
On va continuer à parler de nourriture, les grandes gueules. Quel parfum de glace cartonne en ce moment à Londres, dans une boutique éphémère qui est ouverte jusqu'à la fin du mois d'août et qui fait un véritable carton?
Stracciatella.
Non.
Non, mais il faut chercher autre chose, là. Rose, pétunia.
C'est anglais.
Oubliez la vanille, le chocolat. Il y a 14 parfums différents.
Type de corps, cervelle d'agneau.
Wasabi.
Non, alors, on voit les images sur RMC Story. Dans cette boutique, les clients commandent des boules de glace à la sauce soja, au ketchup, à la mayonnaise.
Mais quel enfer.
En Italie, j'ai connu ça.
Mais rassurez-vous, ce qui cartonne le plus, ça reste des classiques entre guillemets, des céréales, les Frosties, les Coco Pops.
Ah, j'aime bien ça.
Est-ce que vous iriez manger des glaces à la mayo?
Non.
Pas des glaces, enfin.
Et j'ai mangé des glaces spaghetti.
Ah non, c'est du glace.
Glace spaghetti à la bolognaise.
Est-ce qu'il y avait des morceaux de viande dedans?
Non, c'est le goût. Il a été le goût de spaghetti.
Les carabinières, ils sont venus l'arrêter, j'espère.
Non.
C'est impossible. C'est-à-dire qu'ils l'ont fusillé.
C'est un gars qui fait des glaces. Tout à fait étrange.
Est-ce que c'est bon?
Oui, c'était très bon. T'as l'impression de manger des spaghettis bolognaises.
Ouais, mais enfin, si je vous fais des spaghettis bolognaises, je mange des spaghettis bolognaises. Non, mais je ne les mets pas en glace. Après, c'est la liberté du commerçant de faire tous les parfums qu'il veut. Mais moi, on me voue aux gémonies quand je dis que je mets un peu d'ananas caramélisé sur une sorte de pizza.
Et là, on me dit qu'il fait des glaces spaghettis bolognaises.
Est-ce que tu peux aussi nous avouer que tu fais des burgers?
Non, c'est pas vrai.
Il y a deux petites tranches d'ananas caramélisées.
Mais Alain, c'est honteux ce que tu dis, de tenir des propos à l'antenne comme ça, c'est honteux.
Beaucoup le sucré.
Vous savez quoi?
C'est la base de la nourriture.
Ah oui, j'adore.
Mais Alain, tu peux pas tenir ce genre de propos en direct. C'est grave.
Je vais choisir un avocat. Non, merci, monsieur Paul Lassen. Dans un instant, avec les GG, est-ce qu'on réinstaure le cumul des mandats député, maire, oui ou non? Venez en débattre, c'est le GG 7 et match avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.